Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et nous, ce matin, nous sommes avec Esteban Bush et Mathieu Gallet. Pas Mathieu du tout.
Bastien
Gallet, mais ça existe. Mathieu Gallet, c'était le président de je sais pas quoi de la radio. Et donc, Esteban Bush vient de publier un livre qui s'appelle Playlist, musique et sexualité. Et nous allons parler de ce livre. Si je vous lis rapidement la quatrième de couverture, elle dit « Quel est aujourd'hui le rôle de la musique dans la vie sexuelle des personnes, la réelle comme la fantasmée ? Quelles sont les représentations de la sexualité dans les œuvres musicales, celles du répertoire classique, comme celles des genres populaires ? Quelle a été de Pompéi à la musique pop la trajectoire historique de ses imbrications ? Comment cette histoire dialogue-t-elle dans la période contemporaine avec le devenir marchand de la musique et avec sa numérisation ? Comment la musique s'insère-t-elle dans l'histoire sonore de la sexualité, ce territoire méconnu des sound studies ? Quelles conséquences cette recherche peut-elle avoir pour repenser les pouvoirs de la musique ? Telles sont quelques-unes des questions que Playlist explore de Mozart à Adorno, et Guy Debord, de Wagner à Pink Floyd et Madonna, de Cardi B au tango argentin et à l'avant-garde. En 16 chapitres autonomes qui, tels une playlist de musique, peuvent être lus à la suite les uns des autres, ou bien dans n'importe quel ordre, le livre d'Esteban Bush varie les approches et les cas en discutant autant avec la musicologie féministe et les queer studies qu'avec les sciences cognitives, la sociologie de la culture et l'histoire culturelle. Enquête empirique autant que proposition théorique, en envisageant la musique comme un dispositif technique aux usages diversifiés. Il esquisse une écologie sonore capable de rendre compte à la fois des logiques du plaisir à celles de la domination. Alors bonjour donc.
Bonjour.
Et donc vous passez de Pompéi à la Serbie actuelle, et je ne sais pas par où aimeriez-vous entrer dans votre livre. Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent comme ouverture ? Est-ce que bon, le plus tentant, effectivement, c'est de rentrer par la playlist actuelle, telle qu'on peut la trouver si on regarde sur Google et qu'on demande quelle musique écouter en faisant l'amour. C'est ce qui est le plus actuel et le plus évident. C'est peut-être pas le plus intéressant, mais enfin, c'est le plus accrocheur.
Si vous voulez, on peut parler pas de la playlist, mais des playlists, hein, parce qu'il y en a plein. Et même, on pourrait dire qu'il y en a une en principe pour chaque personne. Après tout, c'est très facile à faire de nos jours et chacun fait de fait ses petites sélections privées, parfois dans sa tête simplement, comme une liste de préférences ou d'envies, et parfois comme quelque chose de... une vraie playlist au sens de quelque chose qui est rangé, caché, ou en tout cas inscrit dans les ordinateurs, dans les smartphones, dans, je ne sais pas, peut-être une petite section particulière d'une discothèque quand on a encore des vinyles. Donc voilà, on peut parler de ça, oui, bien sûr.
Mais c'est quand même fortement stéréotypé, et donc l'impression que j'avais en vous lisant, c'est que c'est assez aliéné et que c'est un univers masculin, que c'est une espèce de produit de compensation. C'est pas comme dans un film, c'est pas la musique de film, c'est plutôt le désir le désir du désir. C'est une espèce de chose au...
Alors le stéréotype, c'est bien l'une des questions que je me suis posée. Est-ce que tout le monde écoute la même chose ? Et du coup, est-ce que c'est moins intéressant parce que c'est un produit standardisé ? Parce qu'on sait qu'en plus, les produits standardisés produisent des expériences standardisées. C'est bien la difficulté du standard. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choix très personnels. Il y a une trajectoire vécue en relation avec certains morceaux plutôt que d'autres. Et puis, il y a bien sûr un pluralisme esthétique, c'est-à-dire que, oui, si on regarde les chiffres, les playlists vont être dominées par la musique pop rock, on va dire. dire, mais il y a des gens qui écoutent toutes sortes de musiques. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'écoutent pas de musique du tout et pour lesquels l'idée même d'avoir une playlist pour le sexe ou pour l'amour est bizarre et même carrément une mauvaise idée. Donc, disons qu'un parti pris du livre, c'est d'explorer la diversité des situations, la diversité des esthétiques et, si possible, la diversité des expériences.
Et on a donc des musiques plus sexuées que d'autres. On a des domaines plus sexués. Et on va avoir, par exemple, en lisant votre livre, on apprend que Wagner introduit une dimension totalement sexuelle qui est ressentie comme étant neuve.
Oui, les manières qu'a la musique de représenter la sexualité ou de la susciter, et c'est toute une question, hein, dans quelle mesure une musique sexy produit de l'excitation. Ça, c'est quelque chose qui est un fil conducteur du livre et que l'on retrouve... je fais un peu démarrer, pas une histoire, parce que je ne prétends pas raconter toute l'histoire depuis lors, mais il y a un chapitre sur Pompéi qui montre que les Romains, par exemple, avaient des idées assez, assez précises sur la question et fantasmées surtout, parce que ce que j'analyse dans le livre, c'est des images, des mosaïques qui sont toujours... à Naples et qui viennent de deux des maisons de Pompéi où on voit représenter un couple en train de copuler, de faire l'amour avec un musicien qui fait pratiquement partie de leur couple, c'est-à-dire une sorte d'entité à trois têtes et avec beaucoup de sons. Donc cette histoire-là, on la retrouve depuis l'Antiquité et donc il y a une sorte d'insistance de cette idée que la musique peut produire de l'excitation ou en tout cas accompagner l'excitation, mais ça change, je ne dis pas tout le temps, mais ça change souvent et le moment wagnérien que vous avez évoqué est resté non seulement dans le répertoire mais enfin dans l'idée que l'on se fait par exemple d'une musique classique érotisée ou d'un opéra où la sexualité est un thème majeur. Après, il y a plein de gens qui peuvent se sentir attirés et peut-être excités par Tristan Isolde. Il y en a d'autres pour qui ça va être complètement impossible. Ça serait même la première chose à faire, ça serait d'éteindre la musique et ainsi de suite.
On a justement, là, du temps de Pompéi, Martial, tout ça, c'est associé à la prostitution, par exemple, la musique. C'est un genre de divertissement, donc ça appartient à l'univers des sens, à quelque chose... qui est considéré comme trivial.
Alors, à la prostitution, oui et non. C'est-à-dire que ça fait partie des objets qui sont soupçonnés par les moralistes. Ce qui est intéressant du chapitre Pompéi, du moment Pompéi dans cette histoire, c'est non seulement comment les Romains avaient des pratiques qui incluaient apparemment la musique, mais aussi comment certaines idées de cette époque, 3e siècle en particulier, ont forgé des choses qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné l'histoire occidentale, à commencer par le soupçon moral face au plaisir. Et donc les condamnations des objets sonores, de la musique, aussi des illustrations érotiques, allaient de pair avec l'idée que le plaisir lui-même était suspect d'une certaine manière. Et ça, c'est la doctrine que vont prolonger les pères de l'Église et en quelque sorte l'Église en tant que telle pendant des siècles.
Oui, parce qu'ils vont même critiquer Homère, en fait. Sur le champ, en fait, Homère enseigne l'adultère, nous refusons de prêter nos oreilles à la fornication.
Exact.
Hein, oui, c'est Alexandre, oui. Il s'appelle Alexandre. Oui. Oui. Mais là, il y a donc quelqu'un qui s'appelle Artémidore qui condamne le sexe oral. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il, cependant, précise-t-il, un tel rêve... Ah oui. Artémidore, qui tient le sexe oral en général pour un acte affreux et une faute morale, explique que pour un homme, rêver qu'il pratique une fellation est nécessairement un signe négatif. Cependant, précise-t-il, un tel rêve a une valeur positive lorsqu'il renvoie à l'activité professionnelle du rêveur, à savoir s'il est orateur, joueur de flûte ou professeur de rhétorique. C'est assez amusant. Un train d'esprit.
Ça, il s'agit du traité des songes d'Artémidore, qui est l'un des textes commentés par Foucault dans son Histoire de la sexualité. Oui. Et donc là, bien sûr, il y a, dans ce que j'essaie de faire, une certaine matrice foucauldienne, et ça se cristallise dans ce que vous venez de lire, des images comme ça qui mettent en branle non seulement l'imaginaire, mais aussi la pratique de ces personnes en lien avec ce qu'ils sont socialement. Comme par exemple cette histoire sur le sexe oral et les flûtistes, en l'occurrence. Puisque les orateurs, en principe, sont un autre champ. Je prétends pas les inclure dans cette histoire-là.
Et donc il y a un chapitre qui s'appelle Dada et Isolde, donc, où on retrouve Groth, Dix, et donc là, il raconte quoi de ce chapitre ?
Dada Isolde, c'est
Dada
un...
Le côté Dada d'abord, il raconte quoi à propos de Dada ?
Alors, c'est une mise en regard, si on veut, de deux œuvres, on va dire de musique classique, mais c'est pas de la musique classique très classique pour l'une d'entre elles.
C'est du cabaret ?
Presque. Ouais, c'est une sorte de cabaret. En tout cas, là, on parle de Dada, ça renvoie à une œuvre de Erwin Schulhoff, qui était un compositeur tchèque, qui a écrit, composé, inventé une performance qui est une œuvre en même temps, puisqu'il l'a notée, il y a une partition, un manuscrit, appelée Sonata Erotica, et qui est une performance pour une soprano, pour une voix de femme, qui imite ou mime les vocalisations d'une femme pendant l'acte sexuel, d'une manière très réaliste. En tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété plusieurs fois depuis qu'on l'a redécouvert, ce manuscrit. C'est un pôle dans ce chapitre par rapport à Tristan et Isolde de Wagner. Et donc, c'est pour ça, Dada et Isolde, c'est clin d'œil. Qu'est-ce qui se passe quand on subvertit le dispositif wagnérien en mettant du Dada à la place, en quelque sorte. Ce pôle wagnérien étant ce que, en quelque sorte, la musique classique refuse de faire, au sens où, en général, il n'y a pas de sexualité explicite dans les opéras, et pour des raisons qu'on peut comprendre même d'un point de vue pratique, mais en même temps, le genre opératique n'arrête pas de renvoyer à l'érotisation par l'écoute, et bien sûr les histoires des livrets, des opéras sont souvent des histoires d'amour, donc il y a de la sexualité implicite ou imaginaire. Dada et Isolde, donc, c'est le titre qui rassemble les deux choses, en montrant qu'en fait, entre cette pudeur apparente de la musique classique et puis le geste dada de défi de la tradition classique, il y a une opposition, bien sûr. Schulhoff était un homme des avant-gardes, un homme révolté contre le capitalisme, contre la Grande Guerre, dont il a été l'une des victimes, puisqu'il a été blessé pendant les combats. Révolté contre tout ça, et en même temps inscrit dans cette même tradition classique. Donc l'idée, c'est que Dada et Isolde, ça donne envie d'explorer ce moment-là, ce moment des avant-gardes, en lien avec l'héritage wagnérien, si on veut.
Vous dites que l'humour de Dada n'est jamais un rire d'acquiescement. Et vous parlez aussi du présentisme forcené de Dada. Je suis entièrement d'accord avec ces deux choses. C'est ce qui fait la différence, oui, avec le côté cliché de là, que pourrait avoir la problématique, là, donc le côté ironique et violent est toujours sous-jacent, évidemment. Et donc ça, sur Wagner, Laurence Dreyfus affirme que Wagner a été le premier à développer dans le détail un langage musical capable de représenter la stimulation érotique, l'extase passionnelle et les tourments de l'amour. Et ensuite, il y a une liste des moyens employés au XIXe siècle pour dire le sexe en musique. C'est pour donner une idée de la richesse de votre livre et des choses qui s'y trouvent. Donc Wagner aurait quand même été pionnier, d'après les commentateurs.
Alors oui, c'est ce qu'on a reconnu et dénoncé à la fois. Hein, les scandales autour de ce qu'on appellerait la première réception de Wagner était très marqué par des gens très en colère avec cette érotisation de la musique et en même temps, comme souvent, excité par ça en même temps. Et donc, c'était l'une des raisons de l'intérêt qu'il suscitait. Et j'appuie ça dans notamment les travaux de Lawrence Dreyfus, c'est ce musicologue qui a fait une sorte d'inventaire de toutes les manières, toutes les stratégies qu'a Wagner pour érotiser le discours musical. Ce qui n'est pas trivial au sens où des gens comme Dreyfus, quand on regarde ce qu'on a écrit sur Wagner, il y a des gens comme Dreyfus sont un pôle qui affirme qu'il y a bien cette dimension érotique dans la musique de Wagner, qui s'oppose à toutes sortes de tentatives pour rendre, par exemple, la rencontre de Tristan et Isolde non seulement chaste, mais en plus métaphysique, spirituelle, etc. Tout ce qu'on veut, sauf du corps, du sexe, du contact.
Alors donc, on a une biographie de Wagner qui est extraordinaire, écrite par traduite de l'anglais. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'est dans une collection de biographies sur les musiciens. Et sa volupté, elle est constante, en fait. C'est quelque chose. S'il y a quelque chose qui le caractérise, bah, c'est le vrai bourgeois 19e qui trousse les bonnes et tout. Et donc, effectivement. Et quand Baudelaire parle de sa propre volupté dans son contact avec Wagner, ce témoignage d'époque renforce ce point de vue. On n'a pas de doute là-dessus. C'est simplement la question de la musique savante par rapport à la musique pop, etc. Enfin, c'est tous des degrés. On est dans la distinction de Bourdieu, quoi. Ça dépend où on se situe pour comprendre quelque chose ou comment on le voit. Il y a là un postmodernisme dans votre livre où tout est pris au même niveau, qui est un carrousel dans lequel je me reconnais totalement et qui, je pense, c'est ce qu'on fait actuellement, mais c'est comme Spotify, quoi. C'est comme les algorithmes. La perception historique de Wagner a évidemment beaucoup changé depuis la fin du 19e siècle par la force des choses, quoi.
Oui, mais cette dimension érotique, elle insiste. Hein. Elle est là, elle est dans la musique. Enfin, il y a un consensus pour la reconnaître, même si, comme je disais, il y a eu des interprétations qui essayent de montrer le contraire. Mais enfin, ça revient toujours. Même Clara Wieck Schumann, par exemple, était scandalisée par cette musique qui avait trop à voir avec les drogues, disait-elle. Je paraphrase, mais enfin, c'était son point. Cela dit, si je peux redire oui. Le mot postmoderne, postmodernisme, bon, c'est gentil en quelque sorte de dire que le livre est postmoderne. Moi, je dirais plutôt que l'idée de prendre tous les genres musicaux en principe à égalité de conditions et ne pas établir des hiérarchies, c'est peut-être quelque chose qu'on peut associer au postmodernisme, mais surtout, c'est une démarche de science sociale, une démarche de recherche.
Oui. Enfin, c'est pas. Il y a une valeur d'usage là qui est pas seulement dans la recherche. Enfin, c'est compliqué. Hein. C'est très très riche en fait. C'est vraiment. C'est une richesse inouïe et labyrinthique. Ici, un genre qui fait penser au sexe au XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, c'est le jazz. Et donc là, tout le développement, enfin le discours autour du jazz, par exemple, elle a souligné absolument de. Vu de la France, par exemple, et qu'à penser à Joséphine Baker, ou à n'importe quoi. Enfin, les exemples sont très nombreux, même avant Joséphine Baker. Et on a un commentateur de l'école de Francfort qui représente le versus savant des sciences sociales, justement, qui est assez bon sur son approche du jazz. Enfin, c'est assez. Vous ramenez des notes inédites d'Adorno dans votre livre, pour nous, lecteurs français. Qui m'ont passionné. De quoi s'agit-il ?
Ah ben, je suis content que ça vous ait intéressé, parce que c'est l'un de mes chapitres favoris, en effet, si je peux dire ça comme ça. Alors, j'ai tenté une relecture du fameux texte d'Adorno sur le jazz, qui est, je crois, le texte le plus détesté de l'histoire des sciences sociales, parce que on lui a souvent reproché d'être très hostile à l'industrie culturelle et donc au jazz, par extension, en disant qu'il n'y connaissait rien, que, bon, il y a tout un ensemble de choses qui ont été dites sur ce texte, et aussi, plus sérieusement, on lui a reproché d'avoir une démarche qui pourrait être assimilée à une forme de racisme, puisqu'il a dit dans ce texte que le jazz était une musique d'esclaves, ce qui a fait bondir plusieurs générations de spécialistes et d'amoureux du jazz, et on peut comprendre pourquoi. Mais donc, j'ai voulu relire ce texte pour deux raisons. D'une part, parce que je pense qu'il y a un malentendu ou une mauvaise interprétation du texte par rapport à cette question de la race. Quand Adorno parle de cette musique d'esclave, c'est pas pour dénigrer ni le jazz ni les personnes qui le sont, c'est sa théorie, insister sur le fait que le jazz a été produit en condition de domination et que ce sont des dominés qui l'ont produit, des Noirs américains à l'origine. Bon, on connaît l'histoire à peu près, disons. Donc ça, c'était une chose qu'il m'intéressait de reprendre, mais surtout parce que la dimension sexuelle de sa théorie du jazz avait été, je crois, sous-estimée quelque part, ou en tout cas pas vraiment relevé. Et moi, je trouve que c'est très original, parce que même s'il n'aime pas le jazz, et on peut dire que c'est une erreur, moi je suis pas en train de dire qu'il a raison sur ce plan, disons, le cœur de sa critique, c'est de dire que c'est une musique qui est du sexe fait musique, en quelque sorte. Il sursexualise le jazz. Il dit que le rythme du jazz est le rythme du sexe, de l'acte sexuel, par exemple. Et il entend ce qu'il n'aime pas dans le jazz, il le relie à une crise de la sexualité et une crise de la masculinité en particulier. Et c'est, il dit par exemple que la syncope dans le jazz, c'est un venir trop tôt, comme une sorte d'éjaculation précoce constante. Et il se met à imaginer des satisfactions qui sont, selon lui, seulement réelles dans la danse. Il dit quand les hommes vont danser avec des femmes en payant pour danser, c'est une forme de prostitution autour de la danse qui était très fréquente, très populaire à l'époque dont on parle, dans les années 30. C'est là où il y a un orgasme authentique, en quelque sorte. Et donc, je propose aux adorniens, aux adornistes, une interprétation qui consiste à dire Adorno a fait une première, je crois, théorie sexuelle de la culture, puisque c'est à la base de toute sa théorie de l'industrie culturelle. Et c'est quelque chose qui est en fait précurseur de beaucoup d'hypothèses et d'idées qui ont été avancées, notamment par la critique féministe, la critique queer. Je pense qu'Adorno est un précurseur des féministes, ce qui pourrait paraître bizarre, très bien, et qui fera bondir certaines, sans doute, mais je pense qu'il y a de bonnes raisons d'affirmer ça. Et donc, voilà pourquoi le moment Adorno est important dans le livre, et aussi pour une raison supplémentaire, et je finis là-dessus, c'est que, en effet, il y a des passages très méconnus, enfin, qui sont, ou peut-être carrément inconnus, de ce qu'allait devenir le texte sur le jazz, qu'Adorno n'a pas repris dans le texte sur le jazz, où il compare le jazz à une machine pilonnant sans interruption, dit-il. Et l'idée de la machine sexuelle, c'est quelque chose qui est original, je crois, on parle des années 30, puisque c'est bien plus tard que Deleuze et Guattari vont inventer les machines désirantes. Ce ne sont pas les mêmes machines que les machines adorniennes, mais cette idée des dispositifs, que le plaisir sexuel est associé à des dispositifs machiniques, qui est une idée deleuzio-guattarienne par excellence, eh bien, je m'essaye de montrer que chez Adorno, on trouve quelque chose qui ressemble à ça déjà 40 ans avant Deleuze et Guattari.
On a de la peine à situer Adorno, c'est-à-dire qu'on se défaire de son éthique bourgeoise malgré tout. Ce serait plus facile, c'était Benjamin par exemple, où il y a quelque chose de... Il est en surplomb. Et donc ce surplomb est très difficilement assimilable. Mais c'est quand même assez passionnant. Mais donc le... C'est un choc des cultures. C'est une... Enfin, c'est ça, ouais. C'est très, très compliqué. On pourrait écouter un petit morceau de musique, peut-être.
Si vous, si voulez. Vous voulez, oui.
Lequel voulez-vous entendre dans ce que vous avez amené?
Bah, si on était sur Adorno, ça serait peut-être une bonne idée d'écouter un lead de Alban Berg. Il s'appelle Liebesode, donc une ode à l'amour.
Est-ce qu'on peut avoir l'ode à l'amour? Et donc nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et je suis en train de parler avec Esteban Bush de Playlist, musique et sexualité, un livre qui est très très riche et on n'a pas encore évoqué la question du pop et de la sexualité, ou bien on en a déjà parlé. Est-ce que c'est très présent en fait, c'est presque la motivation première de la musique pop d'accompagner la sexualité, c'est elle a quelque chose. Enfin, ça commence tout de suite avec Elvis Presley, ses déhanchements, le rock'n'roll, enfin c'est constitutif de sa définition même.
Ben, c'est constitutif de plein de genres musicaux et probablement ouais. de la pop.
Mais là, l'aspect commercial étant mis en avant, tout est peut-être plus franc, plus direct, plus avoué, plus...
Bon, je sais pas si je suis pas sûr qu'on puisse dire que la musique pop en général a est plus explicite que le rock par exemple. Ah. Je ne sais pas si on peut poser les choses dans ces termes. C'est sûr que la musique pop a un rapport avec le marché qui a toujours été très fort par définition, mais c'est vrai pour le rock aussi. Et donc la question de comment circulent les images clichés de la sexualité dans notre culture en général se pose pour la pop. Et donc il y a une tradition de dire que c'est une musique standardisée, aliénée, etc. Là, pour le coup, on retrouve un autre fil adornien, même s'il n'a pas parlé de Madonna et pour cause. Mais bon, je suis de ceux qui pensent que quand on a dit ça, on n'a pas vraiment dit grand-chose et que c'est à partir de là, une fois que cette dimension marchande est assumée, que l'on peut commencer à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et par exemple, Madonna est un personnage que je trouve fascinant, non seulement musicalement, mais enfin par tout ce qu'elle représente. Et de fait, il y a un mini-chapitre consacré à Erotica, son album et la chanson qui porte ce titre, qui est très intéressante, que j'essaye d'analyser en clé de Sade, j'allais dire, à partir de la philosophie dans le boudoir, à cause de l'idée des permutations. Vous vous souvenez, dans la philosophie de Sade, tout est question de permutation et de position et de contiguïté, et beaucoup moins de directionnalité, beaucoup moins de trajectoire. Et je pense qu'il y a un écho de ça, ou une image musicale de ça, notamment dans ce morceau Erotica de Madonna, qui n'est pas orienté vers une fin, comme on peut l'avoir dans d'autres chansons qui, d'une certaine manière, miment une sorte de montée vers l'orgasme dans la forme même. Chez Madonna, c'est l'idée, au contraire, que c'est une permutation sans temps, quelque part. Ou en tout cas, c'est le temps, des micro-temps qui recommencent à chaque fois. Et ça, je crois qu'il y a un lien avec certaines idées de Sade.
Et donc, elle détourne tout l'esthétique gay. Elle la crée, elle la détourne, elle la... Parce qu'il y a Vogue aussi, donc il y a quelque chose de très fort, comme de prescripteur. C'est un personnage qui est important dans ce sens-là.
Oui, oui, et puis elle a été importante, elle l'est encore d'ailleurs, c'est un personnage très, très riche. Par rapport à la dimension queer de son esthétique, notamment à l'époque que vous évoquez, Vogue et Erotica, il y a des penseurs et des autrices féministes qui lui ont pas mal reproché ça comme une forme d'opportunisme, et de ce point de vue, elle n'a certainement pas inventé cette esthétique queer ou ce moment camp, disons, dans son esthétique, mais elle l'a recréé, utilisé à ses propres fins.
Elle l'a rendu mainstream aussi.
Aussi, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on doit se plaindre de que ça devienne
on
mainstream?
On se plaint de rien, de toute façon, on est là, on fait des sciences sociales.
N'est-ce pas? Non, mais je veux dire, par rapport à l'idée, est-ce que l'esthétique queer ou les idées queer deviennent moins puissantes, moins subversives par le fait d'être incorporées dans le mainstream, c'est une discussion sans fin.
Est-ce qu'elles ont besoin d'être subversives? Parce que je ne crois pas que vous le mentionnez, mais il y a le disco, et dont l'esthétique queer était quand même revendiquée, qui avait quelque chose, et c'était tout un univers festif qui appartenait à la marge. Sans que ça soit une marche subversive, qui est une marche qui est la volonté des autres, en fait. Mais le disco a occupé une place énorme, en fait. À un moment donné, a conquis toute la place qui était possible.
Je ne crois pas qu'elle a conquis toute la place possible,
de
ce point de vue.
Les boîtes de nuit new-yorkaises
ne sont pas tout l'espace social. Il y a quand même pas mal d'espace.
Mais tout l'espace social d'un type de divertissement.
Ça a été très important depuis l'époque de Madonna et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr.
Où elle est contemporaine, mais quand même un petit peu décalée.
En même temps, encore une fois, elle n'a pas inventé cette esthétique. Il y a des artistes queer qui ont produit des choses qu'elle a après incorporées à toute une sorte de langage. Du point de vue, quand vous parlez de discours, j'imagine que vous voulez dire du discours verbal, parce que la musique est aussi du discours, tout comme les images. Et là, pour le coup,
je ne veux pas utiliser un terme comme ça. Ouais, c'est pas, ça ne veut pas dire. Enfin... le message, comme McLuhan. Et donc, vous parlez de Pasolini à un moment donné.
Il y a un chapitre Pasolini,
le film sur la sexualité.
Oui, il y a un chapitre sur... c'est le chapitre 3. Ça peut être l'occasion de dire aux personnes qui nous écoutent que le livre s'appelle Playlist, notamment parce qu'on peut le lire comme une playlist, c'est-à-dire en commençant par où
trois,
on veut.
Enquête sur la sexualité.
Par exemple, par le chapitre 3 qui parle de ce film que Pasolini a fait au début des années 60 et qui s'appelait en français Enquête sur la sexualité.
Et donc, c'est un micro-trottoir, il va voir les gens, pour les gens qui ne l'ont pas vu, qui doivent être très nombreux, c'est un reportage, en fait. C'est un reportage où il interviewe les garçons, surtout, sur leur sexualité.
Les garçons, les filles, les vieux, les jeunes.
Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Je ne l'ai pas revu.
Alors, je conseille de le revoir, parce que c'est un film... en italien, ça s'appelle Comizi d'amore, qui veut dire les réunions autour de l'amour. Et il y a une fameuse interprétation de Michel Foucault qui dit c'est comme le banquet de Platon, mais à ciel ouvert, parce que Pasolini s'en est allé en Italie, justement, quand vous disiez, faire un micro-trottoir, mais étendu et très complexe, finalement, pour demander aux gens leur avis sur la sexualité, mais surtout du point de vue des normes, hein, de ce que l'on fait, l'on ne fait pas, et donc
est-ce il est allé interroger... De l'exploit aussi, le côté... Est-ce que tu aimerais être un Don Juan? Et est-ce que ça demande des certaines capacités, et ces jeunes gens doutent
oui, en effet,
de ces capacités?
L'une des raisons qui m'ont décidé à faire un chapitre sur ce film, c'est que Pasolini voulait d'abord l'appeler Il Don Giovanni, le film. Bon.
Mais comment on dirait les bellâtres en fait en français, ou quelque chose comme ça, les séducteurs, les bellâtres.
Mais c'était en lien direct avec l'opéra de Mozart. Ouais. Il avait l'opéra de Mozart en tête. Après, il a changé de nom, j'imagine que parce que ça correspondait pas vraiment, mais enfin, on sait pas exactement. Ce qu'il est resté dans le film de ce titre, c'est en effet une scène où il demande à des jeunes soldats, donc des personnes qui, a priori, sont plutôt identifiées à un modèle viril, comme ça, de conquête. Donc, est-ce que tu aimerais être un Don Giovanni? Et donc, ils répondent oui, tous, super. Mais quand il veut aller un peu plus loin, il s'aperçoit que tous ces garçons, en fait, sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'être un Don Giovanni, comme la société le leur propose ou même leur exige, c'est un presque impossible, parce qu'ils ne sont pas assez beaux, parce qu'ils ne sont pas assez riches, parce qu'ils ne sont pas ceci et cela. Et donc, c'est un moment assez touchant dans le film qui renvoie à cette idée qu'il y a une crise de la masculinité, déjà, il y en a peut-être toujours eu une, mais en tout cas, Pasolini met le doigt dessus, si on peut dire, au début des années 60. Et moi, je suis frappé à chaque fois que j'y pense, parce que cette idée que les jeunes ne sont pas à la hauteur de leur rôle de Don Giovanni, a un écho direct avec une autre histoire qui est dans un autre chapitre du livre, et il y a des renvois d'un chapitre à l'autre avec tout un système de fléchettes, je le dis pour qu'on comprenne un peu le mode d'emploi. Donc on renvoie vers un autre chapitre qui parle de Hollywood et de comment, dans les années 50, des gens à Hollywood, et notamment un personnage qui s'appelait Jackie Gleason, qui en fait n'était pas un musicien mais un acteur, a eu l'idée de produire des longs-plays, des disques, avec toute une série de morceaux arrangés comme bande de son pour une rencontre sexuelle. Ça s'appelle « Music for Lovers Only ». Et le lien avec ce que je disais de Pasolini, c'est que des années après, on lui a demandé à ce monsieur, Jackie Gleason, « Alors, comment vous avez eu l'idée de faire ce disque ?» Et donc, il a raconté, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, « Se non è vero ben trovato », comme on dit en italien, il a dit qu'un jour, il regardait un film où il y avait Clark Gable, et il essayait de comprendre qu'est-ce qui le rendait tellement irrésistible. Et donc, il dit, à un moment, on entend des violons qui accompagnent Clark Gable avec une femme, et c'est là où je voulais en venir, il raconte, je me suis dit, si Clark Gable a besoin de violon, imaginez les pauvres garçons de Brooklyn, parce qu'il venait lui-même de Brooklyn, donc c'était comme pour aider des gens comme lui à s'en sortir, à être à la hauteur, à susciter ce désir qui, naturellement, était très difficile à atteindre pour ces jeunes de Brooklyn, parce que pauvre et peut-être pas assez beau, pas assez ceci, et encore une fois, comme les soldats de Pasolini.
Et donc on a une arborescence, votre livre est fait comme une arborescence, une idée en amenant une autre, on passe de l'un à l'autre, et je pense à la crudité qui m'a aussi impressionné, je ne m'étais jamais aperçu que c'était aussi cru que ça, de Lady Macbeth de Shostakovich.
Oui.
C'est très très impressionnant, et ça me fait le même effet que Wagner, en fait, parce que je vois ça, moi, comme une musique bourgeoise. Je vois ça comme l'opéra Garnier, quelque chose qui est loin et qui en jette, quoi, qui est assez écrasant sur ses attributs symboliques. Et là, on a quelque chose vraiment qui est... C'est un couteau à cran d'arrêt, en fait. C'est extrêmement aigu. Qu'est-ce que ça raconte, Lady Macbeth de Shostakovich ?
Lady Macbeth, ça raconte l'histoire d'un couple, donc Lady Macbeth, la Katerina protagoniste, et son amant Sergueï, qui est un couple maudit parce qu'ils se rendent coupables de l'assassinat du premier mari de Katerina et de son beau-père. Et puis ça finit très très mal parce que Katerina finit par entraîner dans la mort au fond d'une rivière une rivale qu'il a quand toute l'histoire est devenue un cauchemar parce qu'il se retrouve au bagne avec Sergueï. Donc il y a cette histoire terrible. Mais le point qui m'a intéressé, moi, c'est que c'est une œuvre qui jusqu'à aujourd'hui est connue parce qu'elle a été censurée par Staline. Et ça ne rate jamais. Chaque fois qu'il y a une mention de Lady Macbeth, que ce soit parce qu'il y a une nouvelle production ou quelque part, où on va mentionner la censure par Staline en 1936. Et déjà, ça m'intéresse du point de vue d'une histoire politique de la musique, voir que cette œuvre, cet opéra a été tellement marqué par la figure d'un dictateur comme Staline et par la censure. Parce que ça renvoie à quelque chose qui apparaît souvent dans le livre, l'idée que les contenus érotisés sont censurés. Et que ça, la censure, produit encore du désir et encore un intérêt pour ça. Mais dans le cas de Lady Macbeth, donc, il y a l'histoire de la censure par Staline et le fait, qui n'était pas souvent remarqué, que cette censure a été d'abord due à la dimension sexuelle de cette musique. Et concrètement, il y a dans la première partie de l'opéra la première scène de rencontre sexuelle entre les deux protagonistes a été mise en musique par Shostakovich de manière à être le plus explicite possible quant au fait que c'est bien d'un acte sexuel qu'il s'agit. Et c'est ça qui a été la cible de la censure. Et quand on entend le morceau, c'est assez flagrant, comme on dirait. C'est une mimésis musicale de l'acte sexuel. Et c'est en tant que tel qu'elle produit une sorte de défi dramaturgique. Déjà parce que, d'après le livret, c'est une scène de viol, c'est-à-dire que Katerina n'est pas consentante lors de cette première rencontre. Et comment mettre en scène un viol, c'est un grave problème éthique et donc dramaturgique que les metteurs en scène abordent de manière assez opposée. Il y en a qui mettent en scène le viol en tant que viol ou qui montrent la violence de cette situation. Et il y en a d'autres qui, au contraire, laissent la question du viol, non pas de côté, mais la renversent en disant « cette Katerina-là, elle n'est pas une victime, c'est une femme qui assume ce désir, un désir peut-être pervers ou maudit pour ce personnage qui va être un destin funeste pour elle, mais enfin, c'est son choix. » Et cette musique, donc, est à l'image de cette liberté aussi, précisément parce qu'elle a cette intensité, voire cette violence en elle. Et il suffit de l'écouter vraiment pour comprendre.
Ah, la violence est très présente, on la sent très très bien. Pour la sexualité, c'est le côté rythmique, c'est très difficile en fait. On pense, je sais pas moi, au Sacre du printemps de Stravinsky par exemple. On a une vision de l'acte sexuel, donc on va la trouver à peu près partout. C'est un petit peu comme ce que je vois de la pop. Faut arriver à définir. Il y a aussi une part de sexualité dans Le meilleur des mondes d'Huxley, par exemple. Je pensais sur ces points de vue globaux comme ça, donc sur l'utopie ou la dystopie, la contre-utopie, tout. Quelle est la part de musique dans l'aliénation, dans le meilleur des mondes?
Elle est importante, elle est même très importante. Et là aussi, je ne crois pas qu'on l'ait souvent en tête quand on pense au meilleur des mondes. Enfin,
jamais, on ne pense pas à la musique.
En tout cas, Huxley, et c'est très proche d'Adorno. D'ailleurs, c'est le même chapitre où je mets les deux auteurs un peu côte à côte. Huxley, son meilleur des mondes, qui est une dystopie, comme vous l'avez rappelé, est truffé de musique synthétique. Ça s'appelle même la musique synthétique. Et il y a des descriptions assez précises de la source de cette musique, comment elle est produite à l'échelle industrielle. Faut se rappeler que l'utopie dystopie des meilleurs du monde, c'est une société qui interdit la reproduction vivipare, c'est-à-dire biologiquement normale, entre guillemets, et, mais qui en même temps encourage une sexualité non reproductive. Et de ce point de vue, c'est curieux de penser ça comme une figure dystopique. Et en tout cas, dans le récit, il y a beaucoup, beaucoup de renvois à cette idée que ce bonheur artificiel que le meilleur des mondes propose est saturé de lubrification sonore, disons. Et ça, c'est non seulement par rapport à cette musique synthétique dont on parle, mais aussi par rapport au régime des spectacles que les personnages peuvent aller voir. Et par exemple, il y a un groupe qui s'appelle John Stop et les 16 sexophonistes. Il y a tout un jeu entre le sexophone et le saxophone qui tombe bien parce que d'ailleurs, pour revenir à la musique pop, l'une des manières les plus clichés de susciter un intérêt érotique ou d'évoquer la sexualité, eh ben c'est le saxo, enfin, qui à lui tout seul semble être une sorte de personnage érotique, bien des fois.
On peut écouter le Marvin Gaye, pour écouter un dernier morceau de musique qui s'appelle comment, le Marvin Gaye ?
Sexual Healing, c'est le premier qui est...
musicale du XXe siècle aussi, qui a été très connotée sexuelle, c'est le tango.
Oui, le tango, c'est un genre qui, depuis le début, est stigmatisé et en même temps distingué comme une musique de l'érotisme. J'avais étudié dans pas mal de détails une campagne que l'Église en France lance en 1913, donc à la veille de la guerre, contre ce qu'ils appellent l'odieuse danse à la mode. Et donc, c'est un appel au boycott, pratiquement, de la danse du tango qui s'installait dans les habitudes de la bourgeoisie française. Et bon, c'était peut-être prévisible, mais avec ça, ils ont fait un effort magnifique pour rendre le tango beaucoup plus populaire qu'il ne l'était. Et donc, c'est l'un des exemples où la censure joue en faveur de l'objet censuré. Mais bon, au-delà de l'affaire de l'Église, en 1913, ça, c'est quelque chose qui accompagne le genre jusqu'à aujourd'hui, même encore quand on va voir les gens qui dansent dans les milongas parisiennes. Ce n'est pas un lieu de drague ni un lieu de rencontre, mais l'érotisation de la danse est manifeste, quoi, enfin. C'est très présent dans les débats sur ces questions de morale et aussi dans les discussions de gens comme Adorno sur l'industrie culturelle. Pour Adorno, le jazz c'est déjà très mal, mais le tango c'est le pire. Donc de ce point de vue, c'est une concentration et de la critique dans la musique du tango, qui est en même temps un véhicule formidable pour dire des tas de choses critiques. Et ça, c'est ce qu'on fait Kurt Weill et Bertolt Brecht dans l'opéra de Katsu, où il y a un morceau en particulier que j'analyse qui s'appelle la ballade du souteneur, qui est en fait une mise en duo d'une prostituée avec son maquereau au moment où les prostituées trahissent le maquereau en question, qui n'est autre que Maki Messer, le héros tordu, j'allais dire, de l'opéra de Katsu.
Oui, donc oui, ça... D'ailleurs, cet opéra de Katsu a eu des continuités pop qui ont bien fonctionné avec les Doors, par exemple. Donc, il y a quelque chose, il y avait. Il avait une certaine aura transgressive qui fonctionnait à l'écoute.
Comme ça. Ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
Ça fonctionne toujours.
Ah, très bien, l'opéra de Katsu, ou Mahagoni, ou tant d'autres choses.
Oui, c'est. Et quels sont les aspects qu'on n'a pas abordés pour donner une vision globale de votre livre? Qu'est-ce qui vous semble dont on n'a pas parlé du tout?
Y a différentes choses dont on n'a pas parlé. Là, il y a quelques minutes, on écoutait ce morceau de Marvin Gaye, Sexual Healing, qui est un tube qui a plusieurs décennies maintenant et qui revient jusqu'à aujourd'hui tout le temps dans les playlists. L'un des thèmes, on était un peu parti de là. L'un des thèmes du livre, c'est ces playlists que l'on sort parfois au moment de la Saint-Valentin. Il y a toute une machine promotionnelle qui se met en place. Bref, Marvin Gaye, Sexual Healing, ça revient toujours parce que ça, le titre dit « guérir par la sexualité ». Enfin, vous comprenez le titre anglais. Et ça, c'est quelque chose que je reprends dans le dernier chapitre avec comme objet un commentaire de l'histoire du soldat de Stravinsky, où il y a aussi l'idée d'une guérison par la musique. Et donc cette idée qui reste à vérifier, c'est pas que je recommande quand vous êtes mélancolique écouter de la musique érotisée, mais enfin il y a cette idée est là depuis un moment, que l'alliance de la sexualité et de la musique, ça peut guérir de la dépression, de la mélancolie. Et donc, voilà, ça finit sur ce ton. C'est important parce que ça renvoie à une question beaucoup plus générale, théorique, si l'on veut, c'est comment la musique nous touche, comment ça peut nous affecter, comment elle travaille nos vies, comment l'écoute de la musique est en soi peut-être une situation érotisée pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui aiment des musiques avec un amour qui est indistinguable finalement de l'amour érotique humain. Et ça, c'est une partie d'un aspect, comme je disais, théorique sur comment la musique nous habite ou comment elle nous touche.
Écoutez, on va arrêter là-dessus. Merci à vous. À bientôt. Donc, c'était sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Esteban Bush qui nous a parlé de playlist, musique et sexualité. Paru chez MF. Je vous mettrai tous les renseignements sur la page du podcast. Merci bien et à bientôt.